Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du lundi 7 octobre. Cela fait un an jour pour jour que le Hamas avait mené une attaque meurtrière contre Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Depuis, le conflit implique le Hezbollah et son soutien l'Iran. Ici aux États-Unis, un nouvel ouragan se rapproche de la Floride en pleine polémique autour de l'aide fédérale apportée aux sinistrés après le passage d'Hélène. En RDC, lancement officiel hier de la vaccination contre le Mpox dans la province du Sud-Kivu. Au Tchad, polémique au sud au sujet de l'organisation des élections législatives provinciales et locales prévues selon l'organe de gestion des élections en fin d'année.
À titre personnel et particulier, je ne suis plus candidat à quoi que ce soit. J'exige que nos revendications démocratiques et légitimes soient prises en compte.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition en sport. La CAF procède aujourd'hui au tirage au sort de la composition des groupes de ces deux compétitions des clubs. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Combattant sur plusieurs fronts, Israël a lancé ce lundi les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre en cours à Gaza, à Réim, sur les lieux du massacre du festival de musique Nova, où plus de 370 personnes ont été tuées. Une foule recueillie a donné le coup d'envoi de ces cérémonies par une minute de silence à 6h29 précise, 3h29 temps universel, moment du début de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sud d'Israël. Le président israélien Isaac Herzog, présent sur les lieux, a rencontré des familles de victimes. Le premier ministre Benjamin Netanyahou s'adressera à la nation. L'armée israélienne a indiqué que 4 projectiles avaient été tirés à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël. D'autres rassemblements sont prévus à Tel Aviv, ailleurs de Sydney à Berlin, de Buenos Aires à New York. De nombreux rassemblements ou cérémonies marqueront l'anniversaire de cette offensive surprise qui a fait 1205 morts, en majorité des civils incluant les otages morts en captivité. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont déjà manifesté à travers le monde, d'aucuns pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre, d'autres en soutien aux Palestiniens après un an de guerres sanglantes dans la bande de Gaza. En Afrique du Sud, dans le centre du Cap, des centaines de personnes ont défilé, agitant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans anti-israéliens. Et justement, hier, à la veille de l'anniversaire de l'attaque du Hamas, le mouvement islamiste palestinien a salué l'attaque qu'il a menée le 7 octobre 2023 contre Israël dans un message vidéo. Le point avec Mohamed Oumfa.
L'attaque du 7 octobre a brisé les illusions que l'ennemi s'était créé, convainquant le monde et la région de sa supériorité et de ses capacités supposées, a déclaré dans ce message un membre du mouvement islamiste palestinien, Khalil al-Haya, basé au Qatar. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté promis dimanche de vaincre les ennemis d'Israël pendant que son armée bombardait des cibles du Hezbollah près de Beyrouth. La guerre sur ces deux fronts s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran, alliés du Hamas et du Hezbollah, qui a tiré mardi 200 missiles sur le territoire israélien, entraînant de nouvelles craintes sur un embrasement du Moyen-Orient. Dimanche, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a menacé l'Iran de frappes similaires à celles visant Gaza et le Liban. Téhéran s'est dit prêt à riposter selon l'agence Tasnim, citant une source militaire. L'attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1205 personnes, en majorité des civils, incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.
L'agence officielle libanaise ANI a fait état de 4 raids israéliens hier soir contre la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Pilonné depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a déclaré que son aviation avait frappé des cibles terroristes du quartier général des renseignements du Hezbollah et des installations de stockage d'armes du mouvement armé dans la région de Beyrouth. Le Hezbollah a dit avoir visé une base militaire israélienne près de Haïfa, dans le nord du pays, dédiant cette attaque à son chef Hassan Nasrallah, tué fin septembre dans une attaque israélienne. Ici aux États-Unis, à un mois de l'élection présidentielle, Donald Trump et Kamala Harris se sont rendus coup pour coup hier. Invité du très populaire podcast Call Her Daddy à l'audience largement féminine, la vice-présidente démocrate a repris sa dénonciation des violences faites aux femmes et défendu le droit à l'avortement, pointant ce qu'elle qualifie de mensonge de Donald Trump. Le candidat républicain l'a accusé d'être en faveur de l'exécution de bébés au 8e ou 9e mois de grossesse. Donald Trump s'est lui rendu pour la 4e fois dans le Wisconsin, dans le nord du pays, un des états clés pour un meeting dans la petite ville de Juneau, accusant une nouvelle fois sa rivale de vouloir mener une politique communiste. États-Unis, toujours, un nouvel ouragan se rapproche de la Floride en pleine polémique autour de l'aide fédérale apportée aux sinistrés après le passage dévastateur de l'ouragan Helene dans le sud-est du pays il y a une semaine. Le point avec Gaby Dorsil.
Milton, qui se trouve dans le golfe du Mexique, est actuellement considéré comme un ouragan de catégorie 1 sur 5 et devrait se transformer en ouragan majeur, catégorie 3 et plus, avant de toucher terre en Floride en milieu de semaine, a prévenu l'Agence américaine de surveillance des ouragans. Ces prédictions du NHC suscitent de l'inquiétude en Floride, comme dans tout le sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage de Helene. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de cet ouragan, le plus meurtrier à avoir frappé les États-Unis depuis Katrina en 2005. Helene, qui a culminé un ouragan de catégorie 4, a fait au moins 226 morts à travers une demi-douzaine d'États et provoqué des inondations destructrices. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a étendu dimanche l'état d'urgence déclaré la veille à plusieurs localités. 51 comtés sur 67 sont désormais concernés. La météo prévoit de fortes précipitations sur certaines parties de la Floride ce lundi, avant même l'arrivée de Milton.
La Cour suprême américaine entame ce lundi une session marquée par les armes à feu et les traitements pour mineurs transgenres s'agissant des armes. Elle se penchera dès demain sur le cas des ghost guns ou armes fantômes, car sans numéro de série vendu en pièces détachées ou fabriquées chez soi au moyen d'imprimantes 3D, pour ce qui est des traitements pour mineurs transgenres en cause, une loi de l'État conservateur du Tennessee dans le Sud, similaire à celle adoptée par une vingtaine d'autres États qui interdit aux mineurs ne se reconnaissant pas dans leur genre de naissance, l'accès aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux interventions chirurgicales pour changer de sexe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, la vaccination contre le Mpox dans la province la plus touchée par l'épidémie, le Sud Kivu, a commencé dimanche au lendemain du lancement officiel de la campagne dans le pays. Le point avec Georges Léonard Sagnou.
Les débuts très attendus des opérations de vaccination en République démocratique du Congo, qui concentre 90% des cas de la maladie auparavant appelée la variole du singe, a été annoncé samedi avec l'injection des premières doses chez des soignants de l'hôpital de Goma, la capitale du Nord Kivu. Selon le ministère de la Santé, il ne s'agit pas à ce stade d'une vaccination de masse, mais de cibler les publics à risque des zones les plus affectées, notamment personnel soignant, professionnels du sexe, vétérinaires et chasseurs. La RDC a enregistré plus de 30 000 cas de Mpox et près de 990 décès depuis le début de l'année, selon les chiffres officiels. Le Sud Kivu, où a été détectée l'épidémie actuelle il y a un an, selon les autorités sanitaires, comptabilise à lui seul plus de 8 400 cas et 45 décès. La province doit recevoir 200 000 des 265 000 vaccins que le pays a actuellement en sa possession, mais n'en a reçu qu'un peu moins de 30 000 à ce stade, selon les autorités sanitaires provinciales.
En Tunisie, le chef de l'État sortant Kaïs Saïd a remporté hier la présidentielle marquée par une très faible participation, selon des sondages sortis des urnes. Le point avec Eric Manirakiza.
D'après les résultats de l'Institut Sigma Conseil diffusé à la télévision nationale, Kaïs Saïd a obtenu 89,2% des suffrages dès le premier tour. Le candidat Hayashi Zamed arrive deuxième avec 6,9% des voix. Le député de la gauche panarabe, Zouhaïl Marzawi, s'est adjugé 3,9% des suffrages et occupe la troisième place. La participation s'est établie à 27,7% contre 45% il y a 5 ans au premier tour, selon l'autorité électorale ISI. Après l'annonce des sondages, environ 400 partisans du président sont sortis fêter sa victoire, brandissant des drapeaux devant le théâtre municipal au centre de Tunis, en scandant « Le peuple veut Kaïs de nouveau ». Seuls Zamel et Marzawi avaient été autorisés à affronter le président sortant Saïd sur 17 postulants initialement. La plupart d'entre eux ont ensuite été écartés par la commission électorale pour des irrégularités présumées. Saïd avait été élu en 2019 avec près de 73% des voix. Des résultats officiels préliminaires sont attendus ce lundi après-midi.
L'auteur franco-camerounais Charles Onana est jugé à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité de contestation du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Dans un livre paru en octobre 2019 et intitulé « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise », quand les archives parlent, il affirme surtout que le conflit et les massacres du Rwanda n'ont rien à voir avec le génocide des Juifs. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
L'ONU a débloqué 5 millions de dollars pour les victimes des inondations au Nigeria où des millions de personnes étaient déjà en grave insécurité alimentaire en raison de difficultés économiques. Le président Bola Tinubu a pris des mesures dont la fin des subventions des carburants et la libéralisation de la monnaie nationale pour relancer l'économie et attirer les investisseurs. Mais les Nigériens ont vu les prix du carburant et des denrées alimentaires grimper en flèche. En juin, l'inflation a atteint 34%. En Zambie, le président Hakainde Hichilema a lancé le projet d'agrandissement de la mine de cuivre Lumwana pour un investissement de 2 milliards de dollars. Le gouvernement vise une production annuelle de 3 millions de tonnes en 2030 contre 700 000 actuellement. Le projet devrait créer 550 emplois au cours des 5 prochaines années et 2500 dans le secteur de la construction jusqu'en 2028. La 27e édition du salon Ecomondo sur les technologies vertes et l'économie circulaire ouvrira ses portes le 5 novembre à Rimini, en Italie, en mettant l'accent sur l'Afrique et le développement durable. Plus de 100 représentants africains à l'événement et au forum de la croissance verte en Afrique. Un programme italien de près de 6 milliards de dollars prévoit des projets, notamment en Afrique du Nord, en Côte d'Ivoire et en République du Congo.
Et comme chaque lundi matin, les nouvelles sportives nous viennent de Boïko au Bénin, vous l'aurez compris. Nous retrouvons Élisée Mpatin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Yakuba et bonjour à tous.
Football est d'abord en coulisses. La CAF procède aujourd'hui au tirage au sort de la composition des groupes de ses compétitions des clubs.
Oui, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, les 32 clubs qualifiés pour l'ultime étape de ces deux compétitions, seront répartis dans 4 groupes de 4. Les deux clubs du Caire, Al Ahly et le Zamalek, respectivement vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF, sont logés dans le pot numéro 1 avant le tirage prévu ce lundi au Caire.
Élisée, deux jours plus tard, toujours au Caire, on connaîtra les premières oppositions des éliminatoires du CHAN 2025.
Ce sera également à travers un tirage au sort qui aura lieu ce mercredi. Et deux tours de qualification seront programmés dans les 5 zones de développement que compte la CAF. Et pour le premier tour, les matchs aller auront lieu entre le 25 et le 27 octobre prochain. Les retours une semaine plus tard. Les qualifiés vont disputer leur place du 20 au 22 novembre pour la phase finale qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans 3 pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Précisons que pour la 8e édition de ce CHAN, les sélections engagées devraient pouvoir faire appel à n'importe quel joueur évoluant sur le continent africain, alors qu'avant, seuls les joueurs des championnats locaux étaient éligibles.
Sur le gazon, la course à la Coupe d'Afrique des Nations reprend cette fin de semaine.
Oui, avec la 3e et 4e journée des qualifications. Et le Bénin, classé 2e du groupe D avec 3 points, s'apprête à affronter deux fois son poursuivant direct, le Rwanda. Et pour conforter son rang, afin d'éviter tout calcul de dernière journée, le sélectionneur des Guépards, Kenneth Rohr, a fait appel à 25 joueurs. Et seule nouveauté sur cette liste, le gardien de l'Autopopo, Mariano Chinonvi. La première confrontation aura lieu le vendredi 11 octobre prochain et la seconde 4 jours plus tard à Kigali.
Et enfin, le football en salle, la Côte d'Ivoire remporte la première Coupe du Monde de Maracana.
Exactement, Yakuba. C'est toujours du football, mais qui se joue à 6 contre 6 sans gardien de but, avec deux poteaux de handball et devant son public. La Côte d'Ivoire a facilement battu le Bénin 3-0 pour s'offrir la première édition de cette Coupe du Monde de Maracana. Et puis, clap de fin d'un autre mondial, celui de futsal, remporté par le Brésil, vainqueur 2-1 de l'Argentine en finale. Les Brésiliens sont donc sacrés champions du monde pour la 6e fois de leur histoire.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Tchad, il y a polémique au sujet de l'organisation des élections législatives, provinciales et locales, prévues selon l'organe de gestion des élections en fin d'année. Le parti Les Transformateurs de l'opposant et ancien premier ministre de transition, Succès Masra, demande le report de ces élections pour régler d'abord la question des inondations qui exposent des milliers de familles tchadiennes à des intempéries. Une situation d'ailleurs reconnue par les autorités actuelles de N'Djamena. André Kodmadjinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
Les transformateurs réunis en convention disent qu'ils ne veulent pas boycotter les élections. Ils exigent des élections aux conditions consensuelles, débarrassées d'un traitement qui installerait l'apartheid électoral et l'exclusion.
Docteur Succès Masra, président du parti des transformateurs, il a déclaré devant ses militants qu'il ne sera pas candidat à une autre élection.
Moi, votre serviteur, je ne passerai pas à autre chose et je serai dans mes actions et mes engagements le gardien du temple, du choix, du changement opéré par les Tchadiens pour que ce changement-là devienne une réalité. À titre personnel et particulier, je ne suis plus candidat à autre chose. J'exige que nos revendications démocratiques et légitimes soient prises en compte.
Ces revendications, en tant que première force politique en face du pouvoir en face, précise-t-il, c'est le report et l'organisation de ces élections en 2025 pour plusieurs raisons.
Le temps d'apporter les amendements consensuels en tirant les leçons de l'élection présidentielle et des contestations suscitées par les nouvelles lois ainsi que la prise en compte des difficultés opérationnelles nées des inondations. C'est un drame exceptionnel. Il y a 500 Tchadiens qui sont morts. Ailleurs, même 20-30 personnes en ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle.
L'actuel premier ministre tchadien Alamaya Lina reconnaît face aux diplomates accrédités au Tchad que les inondations ont causé beaucoup de dégâts et que les jours qui suivent sont incertains pour beaucoup de familles.
15 départements sur 120 à nos jours sont touchés, affectant ainsi 1,5 million de personnes. 164 000 maisons sont détruites. Plus de 250 000 hectares de culture, provoquer la perte de 60 000 têtes de bétail. À ce jour, nous constatons une montée alarmante des eaux du fleuve Chari et Logan.
Pour le premier ministre, les Tchadiens doivent s'attendre au pire.
Déjà en Djamena, le Chari a atteint 7,96 m. À ce stade, on pourrait enregistrer une montée d'eau comprise entre 8,10 m et 8,60 m, voire au-delà dans les 10 jours qui suivent. Il faut l'avouer, il y a encore péril en la demeure.
Le report de ces élections, selon le leader des transformateurs, Dr Succès Masra, permettra non seulement de régler le problème des inondations, mais aussi et surtout de réviser la liste électorale, la composition d'Olange et du Conseil constitutionnel et engager une discussion sur le rôle des forces de défense et de sécurité avant, pendant et après les élections.
Lorsque le peuple a l'impression, documentée par les faits récents, de l'élection présidentielle qui indique que les forces de défense et sécurité font irruption dans la vie politique de façon affichée et de façon revendiquée. Et c'est en tant qu'ancien chef du gouvernement de transition, président du Conseil de défense et sécurité, que je dis qu'il y a un problème. Est-ce que on décide que désormais l'armée est le dernier arbitre du processus démocratique? C'est une question à laquelle nous devons répondre.
André Kodumadjinga pour VOA Afrique, N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Le Gabon lance une caravane nationale d'information et de sensibilisation sur le référendum constitutionnel. Objectif des autorités, susciter une participation active des citoyens à ce rendez-vous qui doit offrir au pays une nouvelle loi fondamentale. Une campagne avant l'heure et déjà des débats autour de certaines dispositions du texte s'intensifie sur la scène publique. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Francis Obam fait partie des opposants à cette réforme constitutionnelle. Le président des souverainistes écologistes mobilise ses partisans contre la nouvelle loi fondamentale.
Dans l'état actuel d'un pouvoir exécutif fort sans contrôle, nous appelons à voter non. En l'état actuel du texte, avec des discriminations sur la nationalité gabonaise, nous disons non.
Parmi les dispositions les plus contestées du texte, les critères d'accès à la présidence de la République réservés aux seuls Gabonais de souche et le renforcement des pouvoirs du chef de l'État, Gérard Onzaghe, rapporteur du comité constitutionnel, souligne que la nouvelle charte s'inspire de celle de 1991.
Dans l'article 8 de la Constitution actuelle de 1991, où il est écrit « Le président est détenteur suprême du pouvoir exécutif ». Donc, on fait un mauvais procès à l'avant-projet sur un grief qui n'est pas vrai.
À mesure que le temps passe, plusieurs voix dénoncent un projet porteur de péril. Michel Elanvé, citoyen gabonais.
Si on met le pouvoir dans les mains d'un seul individu, même s'il a toute la volonté du monde, mais il y a un risque de redérapage.
Le Parlement a apporté plus de 800 amendements au projet de constitution. Jean-Rémy Yama, sénateur de la transition, appelle néanmoins à une loi plus consensuelle.
Voilà pourquoi on veut aider la transition, pour qu'on bâtisse quelque chose de solide, pas à l'image d'un homme, mais à l'image de notre pays. Et donc, oui, moi je souhaiterais qu'on ait une constitution qui serait à 99,99% de oui.
Le gouvernement du général président Oli Kingema est sur le point d'adopter la mouture de la constitution. Le débat divise et emballe la scène politique, y compris dans les rangs du pouvoir déchu. Alain-Claude Bilibizé, ancien Premier ministre.
Qu'il ait le courage de le retirer. Hier, nous aurions dû avoir ce courage-là. Quand on nous a dit ce que vous faites est mauvais, on aurait dû entendre ça. On ne l'a pas entendu. Et ceux qui sont là en haut étaient avec moi quand on refusait d'entendre là. Et aujourd'hui, ils refusent encore d'entendre.
Le peuple souverain se prépare donc à trancher ce débat lors du référendum constitutionnel prévu entre novembre et décembre prochain. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, la journée internationale de la paralysie motrice cérébrale a donné lieu à un plaidoyer pour une meilleure prise en charge et l'insertion sociale des enfants souffrant de paralysie cérébrale. Il n'existe pas encore de statistiques fiables sur cette pathologie au Cameroun. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Gélentap.
Une dizaine d'enfants se livrent à cœur joie à divers jeux dans une salle de l'Institut de neurosciences appliquées et de rééducation à Yaoundé. Ces enfants présentent des séquelles liées à la paralysie motrice cérébrale.
On y va ? Stéphane est là, il a la voiture rouge, je suis en bleu.
Hooster Chucho est enseignante en activité physique et fait partie des encadreurs de l'Institut.
Je suis un peu là pour essayer de jouer avec eux, les écouter par moments, comme le petit Stéphane. D'un premier temps, il a fallu que je puisse entrer en contact avec lui en lui posant certaines questions, ce qu'il aime. On a commencé aussi à jouer par le basket. Et après le basket, on a jugé de venir faire une petite course de voiture.
Ce type de jeu favorise le traitement de certaines pathologies mentales et psychiques des enfants infirmes moteurs cérébraux. Mais le coût d'une telle activité n'est pas toujours à la portée de tous. Tout comme la prise en charge des enfants atteints des lésions cérébrales précoces. Le docteur Michael Temgwa est coordonnateur de l'Institut de neurosciences appliquées et de rééducation.
La prise en charge des enfants en général, les enfants qui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale, c'est une prise en charge qui se fait sur le long terme. Ce qu'on fait en général, c'est que on essaie vraiment de discuter avec les parents pour voir ce que le parent peut supporter. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre centre, on fait tout pour offrir des packs. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les associations de patients. Et en général, le minimum de prise en charge qu'on offre ici à nos pour les enfants varie entre 25 et 50 000 francs en fonction des besoins par mois.
Au Cameroun, l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux plaide en faveur des facilités pour la prise en compte de cette catégorie d'enfants. Elle encourage aussi les parents à l'autonomisation. Flore Ngassa Kamdem, présidente de la CEIM.
Nous avons ce que nous appelons dans notre association l'activité d'autonomisation des parents. Alors comme ça, nous avons décidé à la 6e édition de fabriquer le savon liquide parfumé. C'est le parent qui vit au fond de lui les réalités, les souffrances de la maladie en question. Alors nous avons pensé donc à faire des psychothérapies avec une psychologue clinicienne pour nous rappeler encore qui nous sommes, d'où nous venons et comment est-ce que nous devons porter cette situation, cette condition dans la joie.
Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, entend mettre un accent sur les technologies d'assistance qui devraient être bénéfiques à ces enfants. Docteur Dema Fidel, sous-directeur de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles.
La lutte contre les maladies chroniques non transmissibles en général ne peuvent pas se mener d'un seul sens. C'est pourquoi il faut assurer une synergie d'action. On n'a pas un système réel de suivi. Tout compte fait avec les affaires sociales, nous avons le centre de réhabilitation de Tougué-Bé qui est là, et puis celui de Maroua, qui sont deux éléments qui déjà concourent à mettre. Nous avons également les universités qui s'adonnent un peu à vouloir intégrer ce système et améliorer les conditions de vie. Parce que quand on vit avec un handicap, on n'est pas forcément à l'écart de la société.
Le ministère de la Santé publique a initié depuis 2017 un système d'information sanitaire qui permet de suivre la prévalence des pathologies telles que l'infirmité motrice cérébrale. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Des milliers de dockers ont repris le travail dès vendredi matin aux États-Unis, au lendemain de l'entente de principe entre leurs syndicats et leurs employeurs après seulement 3 jours de grève, levant ainsi une menace sur l'économie américaine à 1 mois du scrutin présidentiel. Les exportateurs africains actifs dans le secteur de l'import-export ont été durement touchés par l'arrêt des activités. Parmi eux, le Burkinabé Saïdou Zangré qui, bien que soulagé par la reprise, souligne les défis majeurs auxquels il continue de faire face.
Vraiment, c'est un ouf de soulagement par le fait qu'ils ont conclu quand même, se sont entendus pour reprendre le travail. Parce que même le week-end passé, j'ai chargé un conteneur qui est parti au port le lundi et le mardi, la grève a commencé. Donc, on est soulagé.
Donc, c'est un accord pour longtemps ou c'est un accord provisoire? Est-ce que vous êtes rassuré pour continuer vos activités comme c'était avant?
Ouais, j'ai lu dans l'actualité, on disait qu'il y a eu un accord qu'ils ont eu avec la compagnie et que c'est pour une augmentation de leur salaire pour les 6 prochaines années. Donc, je pense que ça doit être pour longtemps.
Pendant le temps de la grève, qu'est-ce que vous auriez perdu comme il y a le temps, bien sûr, mais aussi en termes financiers? Comment vous évaluez vos pertes?
Bon, pour le moment, on ne peut pas évaluer ce que ça va jouer sur notre business. En ce sens que avant la grève, on nous avait prévenu qu'à partir du 1er octobre, il y aurait une grève. Donc, on a fait les chargements avant la date de la grève. Les conteneurs sont déjà au port. Maintenant, probablement avec le grand volume, surtout dû à l'arrêt du travail, je me dis que ça va prendre un peu plus de temps pour charger les bateaux. Donc, ça peut jouer sur le temps mis, le temps imparti pour le voyage jusqu'à destination des différents bateaux.
Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans votre travail?
Bon, au niveau du travail, on est plus confronté à beaucoup de problèmes. Mais le problème sérieux actuellement, c'est l'inspection de nos conteneurs, qui est un problème vraiment sérieux parce que nous aurions appris qu'il y a un problème de vol de véhicules aux États-Unis. Donc, régulièrement, il y a la douane américaine aléatoirement choisit des conteneurs pour faire vider par une compagnie privée pour voir la nature ou encore pour vérifier les véhicules qui sont à l'intérieur, pour voir ce qu'on envoie hors du pays. Bon, donc, le problème ici, deux fois, quand ils font ce travail-là, par fini, il y a des dommages sur les affaires. Et au-delà des dommages, c'est nous, en tant que chargeurs, là, qui devons payer les frais de leur service. Et deux fois, tu peux avoir une facture à des milliers de dollars. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pas facile. Moi, personnellement, j'ai été inspecté. J'ai eu 2 conteneurs inspectés dans cette année 2024. Et dans un de mes conteneurs inspectés, il y a eu genre une Range Rover qui était dedans et la pare-brise est cassée. La personne m'a donné une facture que je dois payer à 1100 dollars. Donc, vous voyez comment ce n'est pas du tout facile. Donc, au-delà de payer presque 3000 dollars parce qu'ils ont inspecté mon conteneur, je dois payer aussi les frais de dommage de certains matériels dans mon conteneur.
Le Burkinabé Saïdou Zangré, exportateur actif dans le secteur de l'import-export, joint par Eric Manirakiza. C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Au micro, Yakuba Ouédraogo, Georges Léonia Sagno à la réalisation.